Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur Moussa Dadis Camara puisque l'ancien chef de la junte guinéenne a été inculpé pour complicité d'assassinat dans le massacre d'au moins 157 opposants. C'était en septembre 2009. 6 ans après les faits, les organisations de défense des droits de l'homme se félicitent évidemment de cette mise en examen, mais dans l'entourage du capitaine, on dénonce une instrumentalisation de la justice. D'autant que Moussa Dadis Camara a récemment annoncé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle du mois d'octobre. Alors faut-il y voir une manœuvre pour écarter l'ancien putschiste? Cette inculpation est-elle liée à son entrée en politique? Quel avenir d'ailleurs pour le capitaine Camara? Vous êtes très nombreux, plusieurs centaines de commentaires postés déjà sur la page Facebook de l'émission, plus de 600 messages déjà, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Nous vous attendons au standard, on a envie de vous entendre évidemment sur cette actualité. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Encore beaucoup de questions ce matin sur la crise de la dette grecque. Il a fallu, vous le savez, plus de 17 heures de discussion entre les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro pour parvenir à un compromis afin de maintenir la Grèce dans l'euro. La Grèce va donc bénéficier d'un troisième plan d'aide. Pour répondre à vos questions durant les 20 prochaines minutes, Christopher Dembick est avec nous. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être à nouveau avec nous. Vous étiez invité tout à l'heure dans la spéciale d'RFI Matin. Vous êtes économiste à Saxo Bank. Un mot tout de même avant de passer au standard et d'accueillir un premier auditeur. On a vraiment eu l'impression ces dernières heures que la marge de manœuvre du Premier ministre grec n'avait jamais été aussi étroite puisque les réformes que lui réclament aujourd'hui les dirigeants de la zone euro vont plus loin que celles proposées à la Grèce il y a 3 semaines.
Ah, complètement. Au final, le référendum, après coup, était un échec politique, du moins du point de vue extérieur, puisque la marge de manœuvre du gouvernement grec est extrêmement faible et les mesures qui ont été acceptées par le gouvernement à Bruxelles ce matin sont très strictes et même concrètement, c'est au final une perte de souveraineté à la fois politique, économique et financière de la Grèce qui vient d'être acceptée par le gouvernement.
Donc ce référendum, il y a 8 jours, n'aura servi à rien.
C'était un beaucoup politique en intérieur, au niveau de la politique intérieure grecque, mais ça n'a pas été un élément qui a favorisé un dénouement rapide des négociations, bien au contraire.
Oui, un beaucoup politique, on imagine la grande déception en ce moment même à Athènes et un peu partout à travers le pays. On suivra ça évidemment avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants un peu plus tard dans la journée. Première question, Nessepson est avec nous, bonjour.
Bonjour Johan et bonjour à tous les auditeurs de RFI à travers le monde.
Vous nous appelez du Togo, vous êtes à Lomé, on vous écoute.
D'accord. Je voudrais savoir quelles sont les raisons qui expliquent la longue durée de la crise grecque comparativement aux autres crises ou d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Irlande et le Portugal ont connu aujourd'hui.
C'est vrai que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande ont été à un moment donné sous assistance du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Ces pays ont appliqué des politiques austères, ils ont appliqué la rigueur. Comment se fait-il que ces réformes ont plus ou moins bien fonctionné dans ces pays et que ça ne fonctionne pas en Grèce, Christopher Dembick?
Le vrai problème pour la Grèce, c'est déjà qu'on était sur une économie qui était en très très mauvais état avant la crise et qui n'avait déjà pas de compétitivité, alors qu'on sait très bien que l'Irlande, l'Espagne, encore le Portugal, ont des secteurs qui ont été depuis des décennies toujours très compétitifs. Et surtout, avec la Grèce, il y a eu un souci. On a considéré que la Grèce avait simplement un problème de liquidité, c'est-à-dire qu'il fallait lui prêter de l'argent temporairement. Mais au final, le problème de la Grèce, c'est un problème de solvabilité. Concrètement, la Grèce, peu importe ce qui va se produire, ne sera jamais en mesure de rembourser ses dettes. On va atteindre avec le nouveau plan d'aide probablement un endettement public qui va être à 200% du PIB. Pour donner un ordre de grandeur, c'est équivalent à des pays comme la Jamaïque et on sait très bien que ce ne sera pas remboursable. C'est la principale différence. Il y a eu un petit risque politique puisqu'il y a eu une succession de gouvernements, bien évidemment, qui n'ont pas facilité les négociations, mais concrètement, c'est aussi un mauvais diagnostic de départ de la situation en Grèce.
Ouais, mauvais diagnostic, aussi bien des gouvernements grecs successifs que des institutions de la zone euro. Ça signifie que tout le monde s'est un peu voilé la face et tout le monde est responsable.
Ah, complètement. Et les torts sont vraiment partagés. On se focalise bien sûr sur le gouvernement actuel, hein, le gouvernement de M. Tsipras. Mais depuis 2009, quand c'était M. Papandréou ou encore ensuite M. Samaras, les autres responsables politiques grecs ont aussi leurs torts. Et bien sûr, les Européens ont mal appréhendé la situation.
Ce qu'il faut quand même rappeler, on oublie de le dire, c'est que la Grèce est certainement le pays qui a fait le plus de sacrifices ces dernières années au sein de la zone euro.
Complètement. Aujourd'hui, c'est l'un des pays qui affiche en termes budgétaires les meilleurs ratios. Il y a notamment un aspect qui est souvent évoqué, c'est l'excédent primaire. Et globalement, aujourd'hui, en zone euro, c'est le seul pays qui a un excédent primaire. Donc, on a été extrêmement exigeant avec la Grèce, alors qu'on n'appliquait même pas les mêmes recettes, y compris en France et en Allemagne. Donc, c'est un comportement qu'on peut très nettement critiquer. On l'a vu qu'il n'a pas porté ses fruits, puisque l'économie est en récession. Il n'y a aucun secteur productif à l'heure actuelle. Et on dépossède même les Grecs des peu d'avoirs d'actifs qui ont une certaine valeur avec ce nouveau plan d'aide.
On repasse au standard avec Seigno qui nous rejoint. Il nous appelle de Parakou au Bénin. Bonjour Seigno.
Oui, bonjour monsieur Juan.
On vous écoute avec Christopher Dembik, économiste à Saxo Bank.
Ok, bonjour monsieur Christopher. Et alors j'ai deux questions sur la crise de la dette grecque. Et j'aimerais savoir précisément si la Grèce remplissait toutes les conditions d'adhésion dans la zone euro avant son intégration. C'était là ma première question. Et la seconde question, c'est de savoir dans quel état était la dette, l'économie grecque plutôt, avant son intégration.
On a beaucoup dit, Christopher Dembik, ces dernières années, que la Grèce avait triché pour entrer dans l'euro. Vrai ou faux?
Ah, complètement. Ça a été prouvé. En 2004, d'ailleurs, le gouvernement grec de l'époque avait reconnu devant les instances européennes que les chiffres donnés, notamment en termes d'endettement et de déficit en 1999, étaient faux. On sait que la Grèce, par exemple, n'a jamais eu une déficit qui représente 3% du PIB, 3% du PIB, qui est un critère essentiel pour rentrer dans la zone euro. Tout a été manipulé. Les chiffres n'étaient pas fiables. Donc, il y a une vraie responsabilité des gouvernements grecs de l'époque. Et aussi, il faut bien le reconnaître, des banques, puisque certaines banques, on parle de Goldman Sachs, mais pas seulement, ont aidé à la manipulation de ces chiffres.
Ouais, on cite surtout cette banque américaine, hein, Goldman Sachs, oui, effectivement. Et j'ai lu hier que le gouvernement Tsipras envisageait de porter plainte contre la banque Goldman Sachs, puisque cette banque et d'autres ont aidé le gouvernement grec de l'époque à maquiller les chiffres. On peut dire qu'entre la Grèce et la zone euro, ça a toujours été finalement une histoire de mensonge, alors?
Ah, complètement. Depuis le début et même avant 1999, tout le monde savait que les données publiées par la Grèce, par son Agence nationale des statistiques, qui n'est d'ailleurs pas indépendante mais qui sera vraisemblablement après le troisième plan d'aide, étaient biaisées. La Grèce n'a jamais eu des données avec lesquelles on pouvait avoir confiance.
Mais ça veut dire que personne ne s'est posé de questions à ce moment-là, aucun dirigeant européen, aucun responsable des institutions européennes au moment de donner le feu vert à la Grèce pour son entrée dans la zone euro?
C'était un choix politique et surtout géopolitique, puisqu'on souhaitait arrimer un pays qui est extrêmement important du point de vue de l'OTAN dans la zone euro. Et donc, on a fait complètement abstraction de l'économie. Il faut bien rappeler que la zone euro, au final, c'est un choix politique. La plupart des pays qui sont dans la zone euro, aujourd'hui, si on avait une vision purement économique, ils n'y seraient pas. On aurait une zone euro qui serait composée de l'Allemagne, certains pays du Nord et peut-être la France.
Ouais. Amissi est avec nous. Il est en République démocratique du Congo. Bonjour Amissi.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous êtes à Lubumbashi.
Ma question est de savoir, le fait d'appartenir à la zone euro a été bénéfique pour l'économie grecque?
Ah, est-ce que le fait d'appartenir à l'euro a été positif pour l'économie grecque, Christopher Demi?
Complètement, complètement. Juste un chiffre, le taux d'emprunt de la Grèce depuis son adhésion à l'euro, notamment au début des années 2000, a rejoint quasiment le taux d'emprunt de l'Allemagne, alors qu'on sait très bien que les économies sont très différentes et que l'Allemagne est une économie surpuissante par rapport à la Grèce. Donc il y a eu cet effet qui a beaucoup joué. Les Grecs ont bénéficié de taux d'emprunt très bas, équivalents à ceux de l'Allemagne, donc ils ont été tout simplement incités à emprunter davantage, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique l'endettement croissant sur la décennie 2000-2010 de la dette grecque.
Ouais, 33 9 693 693 70, vos questions évidemment pour mieux comprendre la crise de la dette grecque. Je me fais le porte-parole de Loussakou qui sur Facebook nous dit « Mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle une position aussi tranchée vis-à-vis de la Grèce ? Pourtant en 1953, l'Allemagne avait bénéficié d'un allègement de sa dette. Et c'est vrai, cet auditeur n'a pas tort. Et Alexis Tsipras l'a d'ailleurs rappelé ces derniers jours en disant « Mais effacez-nous notre dette, comme vous, Européens, vous avez effacé celle de l'Allemagne dans les années 50 ».
Complètement, mais la dette en l'occurrence qui a été effacée, c'était une dette qui correspondait aux réparations de guerre. Et ce n'était pas une dette qui était liée au budget croissant, par exemple, de l'État fédéral allemand. Donc il y a cette petite différence, on était dans un contexte où après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait des réparations de guerre à payer, on a simplement allégé cette portion-là. Mais bien sûr, il faut bien comprendre que malgré tout, un effacement partiel ou un allègement de la dette, en économie, ça arrive tout le temps, et on ne comprend pas la position de l'Allemagne, qui est une position moralisatrice et non pas économique. Ce sera un non-événement et ce serait surtout parfaitement encaissable par la zone euro d'alléger une partie de la dette grecque.
Ouais. La dette grecque, elle a déjà été allégée par le passé, il y a 2-3 ans, il me semble.
Effectivement, elle a été allégée en 2012, donc c'était déjà un premier pas, mais le souci, c'est qu'elle est tellement importante, et surtout, elle a augmenté au cours des dernières années, qu'on sait très bien qu'il va falloir passer par un prochain allègement. Politiquement, il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. On parle de rééchelonnement, c'est-à-dire qu'on paiera, mais sur une plus longue durée qu'initialement prévue.
Donc avec des intérêts moins élevés pour la Grèce.
Manifestement, exactement. Donc ça va un peu alléger le poids annuel de la charge de la dette. Mais il faudrait espérer une dynamique économique très vertueuse pour qu'il y ait un remboursement. Aujourd'hui, l'économie grecque est moribonde, il n'y a pas de secteur compétitif à part un peu le tourisme, mais ce n'est pas suffisant. Donc on ne voit pas comment l'État pourra rembourser.
Donc la Grèce n'arrivera jamais à rembourser tout ce qu'elle doit déjà à l'Europe. Même le FMI le reconnaissait il y a quelques jours. Hein, la dette grecque n'est pas soutenable, disait le communiqué du FMI. On va repasser au standard. Julie nous appelle du Kenya. Bonjour Julie.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue.
Oui, moi je voulais savoir si la sortie de la Grèce de l'Union européenne ou de la zone euro annulerait cette dette-là qu'elle a envers la Banque centrale européenne et le FMI.
Ah, est-ce qu'une sortie de la Grèce de la zone euro annulerait sa dette envers l'Europe ?
Alors. Pas complètement. Vous avez évoqué la dette que notamment la Grèce doit à la Banque Centrale Européenne. Cette dette-là, elle sera portée par la Banque Centrale Grecque. Ce qui concerne les prêts bilatéraux, c'est-à-dire les prêts qui ont été octroyés notamment en 2010 par la France, l'Allemagne directement à la Grèce, on pourrait effectivement envisager un effacement partiel ou du moins une redénomination en nouvelle monnaie, ça allégerait donc l'endettement, en cas de sortie de la zone euro. Mais ce n'est pas la meilleure solution, hein, concrètement, puisque la dette, au final, est détenue par une multitude d'acteurs. Et bien sûr, ce serait surtout, on pourrait effacer la dette qui est détenue par les États européens, mais pas vraiment par les instances étrangères. Je parle du Fonds monétaire international ou encore l'instance qui est la Banque centrale européenne.
Mais les principaux créanciers sont les États européens.
Ce sont les États européens, effectivement, hein, puisque par exemple la Banque Centrale Européenne détient simplement 8% de la dette grecque, c'est minimal, mais ça allégerait donc quand même assez un peu cet endettement, mais c'est pas la meilleure solution, et il y aurait sûrement aussi un long parcours juridique devant les tribunaux entre les créanciers et Athènes, donc ce serait quand même compliqué.
Autre question au standard, c'est Hervé qui nous la pose. Bonjour Hervé.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes
bonjour, c'est pourquoi Hervé depuis Libreville.
Libreville au Gabon.
Oui. Ma question était de savoir s'il arrivait que la Grèce abandonne l'euro, utiliser son ancienne monnaie. En combien de temps vont-ils fabriquer cette monnaie ? Quelle serait la valeur de cette monnaie face à l'euro ?
Ah, c'est une bonne question. En cas de sortie de la zone euro, la Grèce devrait évidemment changer de monnaie. Comment ça s'organise, Christopher Dembik ?
Alors, c'est très très simple. En une nuit, on peut le faire.
Ah bon ?
Vous prenez les billets en euros que vous avez, vous les tamponnez avec une nouvelle monnaie. Avec une nouvelle monnaie, ça sera par exemple la drachme de nouveau. Donc en une nuit, on peut faire ça, il suffit d'avoir un tampon. Concrètement, ça se passe historiquement, on a plein de précédents à ce niveau. En termes de niveau, on sait que s'il y aurait une nouvelle monnaie, on aurait une dévaluation d'à peu près 50, voire 70%. Donc ça voudrait dire effectivement une forte dévaluation compétitive, mais ça ne permettrait probablement pas vraiment à l'économie grecque de redémarrer parce que c'est une économie qui est essentiellement importatrice.
Oui. Enfin, quelle serait la valeur d'un billet euro avec le tampon drachme dessus?
Ah bah, ça aurait quasiment pas de valeur concrètement, puisque tout simplement le souci lorsqu'on met en place une nouvelle monnaie, c'est de savoir si les citoyens, donc les Grecs, seraient en mesure et voudraient l'utiliser, étant donné qu'il y a encore plein de billets en euros en circulation, il est manifeste qu'on aurait une période de coexistence entre l'euro et la nouvelle drachme, parce que la drachme serait dévaluée.
Ouais, mais là, pour le coup, la nouvelle monnaie prendrait du temps à circuler en Grèce, puisqu'il faut, ça a l'air de rien, mais enfin, il faut dessiner les billets, il faut les adapter aux distributeurs existants, il faut les rendre infalsifiables, il faut les imprimer, tout ça prend des mois.
Prend à peu près, et les exemples historiques, hein, notamment je fais référence au dernier changement, c'était après la Première Guerre mondiale, ça prenait 6 mois, 9 mois, il y a une évolution technique depuis, mais il faut compter plusieurs mois. Ce serait, on aurait pendant un certain temps, des billets tamponnés qui circuleraient.
Hervé nous posait une question, vous avez peut-être répondu, mais on peut y revenir une petite seconde, sur quelle base, comment on établit la valeur de la nouvelle monnaie?
Alors, il y a plusieurs solutions. Déjà, on essaye de voir en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de savoir quelle serait éventuellement la compétitivité de l'économie, la nouvelle économie, par rapport notamment au reste des pays de la zone euro. On essaye d'avoir un gain de compétitivité. Donc, on a un léger calcul pour savoir à quel niveau de prix on pourrait vendre, exporter beaucoup plus facilement et avoir des volumes d'exportation beaucoup plus importants. C'est un choix, ce qu'il faut bien rappeler, qui est très arbitraire et qui sera politique. Par exemple, aujourd'hui, du point de vue économique, on sait qu'il faudrait une dévaluation quasiment de 70% pour que ça corresponde à la compétitivité de l'économie grecque. Mais 70%, c'est politiquement inadmissible parce que ça voudra dire que les Grecs auront un renchérissement d'OTAN des importations. Donc, ce sera l'État qui devra décider et c'est vraiment complètement arbitraire.
Ouais, cela, en imaginant qu'on aille sur du 70%, ça aura incontestablement de graves conséquences sur le pouvoir d'achat des Grecs. Mahamat nous dit: pourquoi le Premier ministre grec a souvent parlé de réparation de guerre de l'Allemagne pour essayer d'obtenir un allègement de sa dette?
Alors, parce qu'effectivement, on a pris, et Monsieur Tsipras l'a souvent évoqué, on a pris l'exemple de la réduction de la dette qui avait été accordée notamment à l'Allemagne et notamment par Athènes, puisque l'Allemagne devait des réparations de guerre à Athènes, du fait notamment de la spoliation des réserves d'or de la Banque centrale grecque lors de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est important de voir, c'est que c'est malgré tout un processus juridique qui est éteint, puisqu'il y a eu des accords qui ont été signés dans les années 50, donc ce rappel historique n'a aucune valeur et d'ailleurs la plupart des juristes considèrent que ça ne peut pas aboutir d'un point de vue légal de quelconque revendication à cet égard.
Ouais, à Berlin on affirme que la question a définitivement été réglée il y a maintenant plusieurs décennies. Merci beaucoup Christopher Dembick d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été une grande partie de cette matinée spéciale sur RFI en direct pour nous éclairer, pour nous permettre de mieux comprendre. Avant de vous libérer, je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous. Quelle est la suite maintenant pour la Grèce? Le Premier ministre va devoir évidemment obtenir le feu vert de son Parlement d'ici au plus tard à mercredi, c'est ça le calendrier?
Le calendrier est mercredi. Ce qu'il faudra voir, c'est qu'a priori, les réformes seront acceptées puisque le Parlement a quasiment donné un blanc-seing au Parlement, au gouvernement pour négocier. Mais en revanche, il est peu probable que le gouvernement reste en l'état. Il faudra une nouvelle coalition avec vraisemblablement les centristes qui vont rejoindre le gouvernement et on anticipe à terme des élections législatives anticipées.
Merci Christopher Dembick. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes économiste à Saxo Bank. D'autres questions évidemment demain. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, abusez du téléphone. Vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, eh bien vous nous appelez, le standard reste ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur le compte Twitter de l'émission et sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Dans une minute maintenant, le point complet sur l'actualité. Et on sera de retour juste après pour pour lancer le débat sur Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne, inculpé notamment pour complicité d'assassinat dans le massacre du 28 septembre 2009. Faut-il y voir une manœuvre pour l'écarter de la vie politique, d'autant qu'il y a tout juste deux mois, Moussa Dadis Camara a annoncé sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle du mois d'octobre. Eh bien, on en parlera ensemble dans 10 minutes sur RFI.